direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est une histoire qui s'écrit à deux. L'histoire de deux frères, Konrad et Andreas, deux petits juifs orphelins de la Seconde Guerre mondiale, qui vont travailler pour la Stasi, la police d'Allemagne de l'Est. Car c'est aussi l'histoire de deux Allemagnes, la RFA et la RDA, qui vont s'affronter un jour de 1974 à Hambourg, dans un match de foot qui sera une vitrine de la guerre froide. Bref, c'est une fiction qui mêle ballon rond et politique, grande histoire et espionnage, mais aussi le passé et le présent, car l'Europe d'aujourd'hui est née de cet affrontement-là. C'est un album de BD qui s'est écrit à deux et donc à quatre mains, celle du scénariste Philippe Collin, homme de radio et historien de formation, et celle du dessinateur Sébastien Goethals, habitué des polars et autres récits de genre. La patrie des frères Werner est parue aux éditions Futuropolis et vous m'en direz des nouvelles. À mes côtés à Paris, Philippe Collin, bonjour.
Bonjour à tous.
Et à Toulouse, en duplex, grâce à nos confrères de France Bleu Occitanie, le dessinateur Sébastien Goethals, bonjour à vous aussi.
Bonjour à tous.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors cet album, Philippe Collin, c'est en fait le deuxième volet d'un diptyque. Il y a eu un petit peu moins de deux ans, le voyage de Marcel Grob, qui racontait l'histoire d'un jeune Alsacien de 18 ans, un malgré nous, comme on dit, enrôlé donc de force dans la Waffen-SS en 44. Est-ce qu'on peut dire que la patrie des frères Werner, c'est le petit frère de Marcel Grob?
Oui, d'ailleurs, la patrie des frères Werner commence là où l'histoire de Marcel Grob s'arrête, c'est-à-dire en mai 1945, et on l'a vraiment conçu comme ça avec Sébastien, c'est-à-dire c'est une continuité. Nous avions évoqué dans ce premier tome une jeunesse française kidnappée par les nazis et broyée par la Seconde Guerre mondiale, et avec Sébastien, on a décidé de raconter ce que c'était que d'avoir 10-12 ans, étant enfant allemand dans les ruines de Berlin, et comment est-ce qu'on grandit dans cette Allemagne-là alors qu'on est orphelin, qu'on est juif, qu'on est enfant loup, comme on disait à l'époque, donc les Wolfskinder. Il y en a 2 millions, il y a 2 millions d'orphelins en Allemagne en 1945. Alors comment on fait quand on a cet âge-là et qu'on doit grandir dans un pays qui est banni, dépecé, ruiné, et qu'on doit se débrouiller seul avec un frère, un jeune frère ou un frère aîné, ça dépend de quel point de vue on se place évidemment. Et qu'est-ce que ça veut dire pendant 30 ans d'histoire, c'est-à-dire passer à l'âge adulte en grandissant dans un pays qui est coupé en deux, donc il y a deux frères et deux sœurs, deux Allemagnes évidemment face à face.
Qu'est-ce qui vous intéresse précisément dans le traitement de la guerre, dans le traitement d'un conflit à travers le prisme de la jeunesse ?
Ce qui m'intéresse, c'est l'innocence de la jeunesse, sans doute. De quoi on est responsable quand on a 10-12 ans en mai 1945 à Berlin? On est responsable de rien, ni de l'accession d'Hitler au pouvoir, ni de la ruine du Troisième Reich. On se retrouve là, abandonné, orphelin. Malgré tout, on doit faire face à l'histoire. On doit faire face à la fatalité de l'histoire. Et donc, du coup, c'est faire descendre les flux historiques au niveau de l'humain. Un enfant fait écho à chacun de nous. Qu'est-ce qu'on aurait fait enfant à la place de ces enfants-là?
Mais c'est vrai qu'on se sent tout de suite proche, effectivement.
Exactement.
des deux frères Werner.
Ça a cette vertu-là, l'enfance.
Ils sont purement fictifs, ces deux personnages-là?
Alors, ils sont inventés par Sébastien et moi, ils sont fictifs, mais ils sont tirés du réel. Et j'y tiens parce qu'en fait, il y a un grand historien allemand qui s'appelle Christopher Spatz, qui a beaucoup travaillé sur les enfants loups. Il a épluché 30 000 dossiers. Et chaque élément qui compose Andreas et Konrad Werner, donc ils sont les deux frères Werner, sont tirés du réel. C'est des personnages composites, mais ils dégagent une réalité de l'époque.
Alors évidemment, la première question qu'on se pose quand on fait un album de bande dessinée, c'est quelle tête vont-ils avoir, ces fameux personnages? Alors Sébastien Goethals, comment est-ce que vous avez graphiquement déterminé les traits des visages de Konrad et d'Andreas?
J'ai essayé de les concevoir en opposition l'un et l'autre. En fait, et en même temps de travailler effectivement sur des signes très particuliers, très singuliers, qu'on allait retrouver au fur et à mesure qu'on allait retrouver ces personnages dans des époques différentes. Parce que, faut le dire, c'est un récit très elliptique. On saute des décennies.
Mmh.
Et il fallait pouvoir les identifier. Donc ils vieillissent, absolument.
Ils changent de coiffure, ils changent de vêtements aussi.
Ils changent de coiffure,
mais
il y a toujours une base sur laquelle j'ai travaillé en fonction des différentes époques, années 50, années 70. Et du coup, il fallait absolument les retrouver. On a échangé avec Philippe quels étaient les moyens de les différencier, de les signifier.
Donc ils devaient se ressembler, mais pas trop, quoi. Où est-ce que vous avez placé justement le curseur entre les deux?
Bon, en fait, j'ai fait confiance à dans mon style de dessin pour qu'ils finissent par se ressembler. Effectivement, à force de les dessiner ensemble, étrangement, ils finissent par se ressembler. Si vous voulez, c'est deux frères, ils viennent quasiment de la même personne. Après, j'ai voulu vraiment les distinguer en fonction des traits pour que le lecteur, effectivement, puisse les retrouver et qu'il n'y ait pas d'erreur par rapport à ça. Et par exemple, avec Philippe, a eu une très bonne idée. On a ramené il était une fois en Amérique, ce fameux grain de beauté qui était une petite dédicace à Sergio Leone et qu'on a mis sur le visage de Conrad pour vraiment les distinguer tous les deux. Quoi.
Alors, il y a des scènes, on parlait de cinéma, et c'est vrai qu'une bande dessinée, c'est un film. Quoi. C'est quand même comme ça aussi qu'on construit un récit en images. Parmi les scènes très fortes, hein, donc l'album commence vraiment par ce chaos, hein, ce Berlin dévasté par l'offensive de l'armée rouge, et donc ces deux orphelins, ces deux Wolfskinder, ces deux enfants loups, et comme on le disait effectivement au début de l'émission, Philippe Collin, comment est-ce que l'Allemagne d'après-guerre s'est comportée vis-à-vis de ces enfants loups?
Alors c'est très compliqué parce que il faut imaginer ce que c'est que l'Allemagne en 1945. Hein. C'est un pays qui est divisé en quatre, occupé par les Britanniques, les Américains, les Français et les Soviétiques. C'est un pays qui est en ruine, il n'y a aucune structure, les gamins sont lâchés dans la nature. Hein. Ce qu'on raconte dans l'histoire est tout à fait vrai. Ils doivent se débrouiller pour se nourrir, pour se protéger, pour se loger, pour se soigner. Ils sont livrés à eux-mêmes pendant des mois et des mois. Au fur et à mesure, les choses vont se rétablir. Mais l'Allemagne a mis un voile pudique sur cette affaire. Pour tout dire, les enfants loups, hein, je répète, 2 millions d'orphelins en Allemagne, on les a mis de côté dans la mémoire allemande. Et ils ressurgissent en 1990.
Très récemment,
grâce à un grand documentaire de la ZDF, qui est la grande télévision allemande, et qui a été un choc pour l'Allemagne. Mais évidemment que les Allemands le savaient, c'était un sujet tabou. Vous imaginez, 2 millions, ça fait beaucoup de gens qui eux-mêmes font des enfants. Enfin, c'est massif. Comme phénomène de société. Mais c'est resté un sujet tabou et ça l'est encore aujourd'hui. C'est compliqué parce que 2 millions d'enfants, c'est 2 millions d'enfants que le pays a abandonnés. Parce que ce Troisième Reich a fini dans la déliquescence qu'on sait et elle a laissé donc, il a laissé derrière lui ces 2 millions d'enfants. Donc chaque Allemand pouvait se dire, on a laissé ces gamins, nos gamins, face à eux-mêmes, face à la fatalité de l'histoire.
Alors il y a donc une situation déjà extrêmement difficile pour ces deux enfants et par-dessus le marché, si j'ose dire, ces deux enfants-là, ils sont juifs. Pourquoi est-ce que vous avez ajouté cette caractéristique supplémentaire, Philippe Collin? Il y en avait vraiment besoin?
Oui, je crois. Je crois parce que deux choses. D'une part, cette affaire du massacre des Juifs en Europe durant la Seconde Guerre mondiale, c'est une affaire qui nous concerne tous. Et pas que les Juifs. Et donc je voulais aussi que de ce point de vue-là, alors que ni Sébastien ni moi ne sommes juifs par ailleurs, je voulais qu'on insiste sur cette affaire de la Seconde Guerre mondiale qui est importante, qui nous concerne les uns et les autres. Ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'en plus, dans le pays dans lequel vont grandir Andreas et Konrad Werner, c'est-à-dire la RDA, la République démocratique allemande, l'ex-Allemagne de l'Est, donc satellite du bloc soviétique, on a nié l'aspect de la Shoah. C'est-à-dire que il y avait sur le territoire de la ex-RDA des camps de concentration, comme Ravensbrück par exemple. Alors évidemment, les communistes ont mis en place des mémoriaux, il y a un mémorial à Ravensbrück. Mais on a systématiquement mis de côté, au profit du genre humain, pas de nationalisme, pas de particularisme, donc pas de juifs, pas de tziganes, pas d'homosexuels, c'était le genre humain contre le nazisme. Et donc on a beaucoup nié cet aspect des choses dans toute l'Europe de l'Est, d'ailleurs. Et évidemment, c'est important parce que les deux enfants sont juifs et ils savent qu'ils étaient juifs. Et donc c'est une première ligne de fracture entre eux, c'est-à-dire que l'aîné, Conrad, accepte cette injonction, idéologique, comme quoi le genre humain est supérieur à tout le reste, donc oublions que nous avons été juifs. Et le jeune frère dit, mais non, André, non, Conrad, maman est morte parce qu'elle était juive. Donc il y a une question d'identité là-dedans. Et comme ces deux frères qui vont s'affronter, comme deux Allemagnes qui s'affrontent, c'était aussi très important pour nous d'avoir ce ressort-là pour créer une des oppositions entre eux.
Alors, deux Allemagnes, effectivement, et en 1953, à la mort de Staline, espoir pour les deux frères. Ah, si l'Allemagne pouvait se réunifier. À ce moment-là, ils vivent à Leipzig, donc en Allemagne de l'Est. Et un jour, Konrad va se faire arrêter par la Stasi pour une peccadille. La Stasi, c'est la police politique est-allemande. Et non seulement la Stasi ne va pas les lâcher, les deux frères, elle va les recruter, les former, et ils vont devenir de bons petits agents du socialisme. Philippe Collin, on peut parler de lavage de cerveau ?
Oui, complètement. Ça s'appelle un endoctrinement. Et effectivement, c'est une manière de faire entrer dans le cerveau d'une jeunesse une propagande, une idéologie, là au service d'un organe répressif, de surveillance, d'espionnage et de répression. Et effectivement, on en fait d'excellents soldats au service d'une dictature politique.
Alors Conrad, c'est le bon élève, hein, et puis l'autre, Andreas, il est un petit peu plus turbulent, un petit peu plus chien fou.
Il doute en tout cas, il a plus de doutes, et puis il revendique lui une autre histoire. Il dit je tiens à mes racines, voilà, nous sommes allemands, nous sommes juifs, voilà. Et c'est important pour lui.
Et il va faire une bêtise, il va passer quelques temps en cellule, hein, dans la prison de la Stasi. Nous sommes en 1962, à ce moment-là de votre récit, et à la page 38 de votre album, Andreas justement sort de prison et les deux frères se retrouvent dans la voiture du colonel Gronau, qui est leur officier référent en quelque sorte. Nous avons mis en onde leur dialogue.
Alors Andreas, comment vas-tu ?
Disons que ça va, même si prendre 3 mois à l'isolement pour avoir descendu un ancien SS, c'est un peu difficile à avaler, surtout pour un juif.
Oui, c'est vrai. On peut aussi dire que 3 mois de prison pour avoir contrarié Khrouchtchev, c'est pas très cher payé. En tout cas, je suis très heureux d'avoir retrouvé mes deux fils. D'autant que le temps presse. J'ai déjà besoin de vous pour une nouvelle mission.
On est prêt. Pas vrai, Conrad ?
Cette fois, vous ne serez pas ensemble, Andreas. Conrad a été promu pendant ton séjour à Hohenschönhausen. Il part à l'ouest comme taupe infiltrée. C'est un immense honneur, l'élite de la Stasi. Tu peux être fier de ton frère. Mais rassure-toi, j'ai aussi une mission pour toi. Une mission très importante. La Stasi aimerait infiltrer l'équipe est-allemande d'athlétisme qui doit participer au championnat d'Europe à Belgrade. Le parti redoute des tentatives de passage à l'ouest chez nos sportifs, au contact des délégations capitalistes. J'ai donc décidé de t'envoyer à Kiev pour suivre une formation de kinésithérapeute du sport. Ensuite, tu seras intégré à la délégation pour la Yougoslavie en septembre. Qu'est-ce que tu en dis ?
J'en dis que ça me va très bien, mon colonel. Je ferai tout ce qu'on me demande. Je suis au service du parti. C'est ma vie.
J'aime cet état d'esprit, Andreas. Je trouve ça très important que tu vois d'autres démocraties socialistes. Quitter un peu la RDA, c'est prendre conscience de l'ampleur de notre tâche au service des travailleurs. Je suis sincèrement navré, mais je suis convaincu que c'est pour le bien du socialisme.
Et la séparation entre les deux frères va être longue, hein, jusqu'en 74, on va y revenir dans un instant. Là, Philippe Collin, cette scène-là, là on n'est plus dans le roman historique, on est dans l'affaire d'espionnage, c'est du John le Carré.
Bah écoutez, mais c'est un très bon compliment, merci beaucoup, ça nous touche évidemment. Mais ce qui me frappe dans cette histoire, c'est, vous voyez, c'est la perversité du système, parce que ils en font un kiné, le kiné il...
pour pouvoir infiltrer le
oui, mais qu'est-ce qu'il fait le kiné? Il manipule les corps, il manipule les âmes, et c'est tout là, parce qu'en fait le rôle du kiné, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est une réalité de la Stasi. Il faisait intégrer des espions de la RDA dans les équipes sportives de la RDA en tant que kiné. Mais le kiné, effectivement, il touche les corps, il touche les âmes. Il est là pour contrôler les corps, et on explique pourquoi d'ailleurs c'est important de contrôler le corps, parce qu'on récupère des hormones, etc. en cas de fuite. C'est un détail précis de la bande dessinée, mais il manipule aussi les âmes. C'est-à-dire que effectivement, c'est le colonel Gronau qui est l'agent instructeur et qui est redoutablement pervers.
Donc, l'infiltration, c'est monnaie courante à ce moment-là, dans les milieux du sport en particulier ?
Très très courant. C'est-à-dire que, vous savez, en RDA, il va y avoir 90 000 agents de la Stasi pour 17 millions d'habitants. Le ratio est gigantesque. Et le sport, vous savez, c'est quasiment les seuls est-allemands autorisés à quitter le territoire pour participer aux compétitions internationales. Donc ils quittent le pays pour aller participer aux JO, aux championnats du monde, championnats d'Europe. Donc là, on redoute par-dessus tout des fuites à l'ouest, hein, des tentations de fuite. Donc elles sont très infiltrées, ces équipes sportives, quel que soit le sport d'ailleurs. Une équipe sportive ne part jamais de la RDA sans son contingent d'espions de la Stasi.
Et évidemment, l'événement majeur qui se profile en 74, c'est donc le mondial de football, particulièrement dans le viseur des services. On y vient dans un instant.
Jak ziemski glob na świecie.
74, chantée par la polonaise Marila Rodowicz dans VMDN sur RFI, avec Philippe Collin et Sébastien Goethals pour leur album de bande dessinée La Patrie des Frères Werner chez Futuropolis. Cette année-là, c'est donc l'Allemagne de l'Ouest qui organise la compétition. Et cerise sur le gâteau, Kirche auf dem Kuchen, les deux Allemagnes sont dans le même groupe lors de la phase de poule. Va donc y avoir un match RFA-RDA organisé donc à Hambourg. Gagner, Philippe Collin, c'est un impératif sportif, pas forcément, parce que c'est un match de poule, oui. Mais c'est un impératif politique absolu.
Absolu pour chacun des deux côtés, parce que ce match-là va résumer en 90 minutes les enjeux de la guerre froide. 90 minutes sur un terrain de football à Hambourg, en Allemagne, vous l'avez dit, cette Coupe du Monde aurait pu avoir lieu au Canada ou au Japon. Non, elle a lieu sur le territoire ouest-allemand, c'est insensé. Et pour la première et unique fois de son histoire, le football va voir s'affronter donc les deux sœurs allemandes, la RFA face à l'RDA. Et effectivement, c'est le football bourgeois, on va dire, contre le football ouvrier, pour être dans une forme de cliché. Qui vont s'affronter.
Mais et c'est deux symboles, quoi, ces deux équipes.
Ces deux équipes, et qui sont d'ailleurs à l'aune de ce que sont ces deux pays. C'est-à-dire que d'un côté, on a une équipe de la RFA, donc l'ex-Allemagne de l'Ouest, qui est une équipe qui est assez offensive, entrepreneuriale, on va dire, libérale. La vedette, c'est l'attaquant. On est offensif. De l'autre côté, c'est la République démocratique allemande, du bloc de l'Est. On est plutôt dans une forme de défense. On défend le travailleur, on défend le paysan. Donc on est le héros, c'est le défenseur.
Donc l'idéologie se lit sur le terrain dans la stratégie, la tactique de jeu.
Complètement, c'est-à-dire que les deux coachs qui sont face à face, Helmut Schön pour la RFA et Georg Büchner pour la RDA, incarnent ces deux systèmes et ils vont mettre au point deux stratégies de jeu différentes, opposées, qui vont résumer la philosophie des deux pays. D'ailleurs, Georg Büchner dit à ses équipiers, donc l'entraîneur est-allemand, on va défendre la ligne de but comme on défendrait la ligne soviétique, c'est-à-dire qu'on défend la frontière.
Alors il y a évidemment des scènes de match à l'intérieur de l'album. Alors Sébastien Goethals, vous me voyez venir, vous portez un nom qui compte un tout petit peu dans le milieu du foot. On est obligé évidemment de penser à Raymond Goethals, à Raymond Lascience, grand entraîneur s'il en est de football belge, celui qui a remporté la Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille. Est-ce que vous ne seriez pas un peu cousin?
Non, mais mais je peux vous dire que j'en ai bien profité. Non, mais j'habitais pendant des années à Avignon et du coup, effectivement, en allant à Marseille, dès que je prenais le train, évidemment, tout le monde me demandait avec un énorme sourire, avec des yeux pleins d'espoir, si j'étais de la famille de Raymond Goethals.
Oui.
Et malheureusement, non, je n'étais pas de la famille de Raymond Goethals, de Raymond Lascience. Mais c'est très drôle parce que effectivement mon grand-père s'appelait Raymond Goethals et lui était scientifique et il recevait des coups de fil de fans qui retrouvaient son téléphone et qu'il l'appelait et ça l'horripilait, quoi. Voilà.
Bon, belle histoire, mais c'est vrai que Goethals, c'est un nom assez répandu en Belgique, de toute façon. Alors, vous avez dessiné les coulisses du match, non pas Raymond, mais Sébastien Goethals, les coulisses du match et le match lui-même, a commencé évidemment par les joueurs. Alors, les joueurs, on va pas tous les citer, ils ont pour nom, côté ouest-allemand, Beckenbauer, Kleff, Mayer ou Breitner. Vous avez travaillé sur photos, sur les films d'époque aussi?
Les deux, oui, bien sûr. J'ai beaucoup regardé ce qu'on peut voir sur le net, sur le film, sur les archives auxquelles j'avais accès. Et puis en même temps, effectivement, sur toutes les banques d'images. Le temps de se les mettre un peu sous la main, dans la main, je veux dire, sous le crayon. Et puis après, l'idée, c'était d'essayer de les distinguer, de forcer un peu leurs traits, sans tomber dans la caricature et sans non plus être trop photographique pour pas que ça soit désincarné.
Alors il y a évidemment... Espèce de... Oui, allez-y.
Non, je veux dire, il y a cette espèce de jeu subtil entre tous ces pièges dans lesquels on peut tomber, effectivement, quand on travaille d'après photographie, c'est-à-dire de tomber sur un trait assez figé, où il n'y a plus de vie, et en même temps, voilà, et après, des fois, on peut s'échapper un peu de la ressemblance, quitte à ce que les gens à la lecture ressentent vraiment quelque chose.
Alors il y a un personnage qui est peut-être du pain béni pour un dessinateur qui aime justement dessiner des visages, des troïnes, comme on dit un peu familièrement, des vrais physiques. C'est Paul Breitner. Ça, c'est il a vraiment un visage et un physique même intéressant. C'est un personnage très animal. Vous pouvez nous le décrire, Sébastien Goethals?
Oui, tout à fait. Paul Breitner, si vous voulez, c'est un visage à la serpe, très anguleux. Et parfaitement entouré d'une énorme afro, une coupe afro, qui marque encore plus ses traits anguleux. C'est un espèce de contraste incroyable C'est un grand, grand plaisir à dessiner. C'est parce que, je sais pas, il est même en silhouette, on peut le repérer de loin. Enfin, c'est un cadeau pour un dessinateur, ça.
Mais c'est, oui, justement, et c'est vrai qu'on dit toujours en France cette expression, l'habit ne fait pas le moine. Pour Breitner, on a presque envie de dire l'inverse, parce que sur son physique porte finalement aussi ses idées, sa façon à lui de voir le monde, bien ancré dans l'époque d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Tout à l'heure, Philippe a raconté les tactiques de jeu, effectivement, qui étaient illustrées par les modèles politiques. Paul Breitner, lui, il est dans ce monde de la RFA, etc., très libéral. Et en même temps, lui, il est maoïste. Donc, il y a cette espèce de, il porte en lui cette espèce d'opposition. Il fait partie, effectivement, de cette partie de l'Allemagne qui existe aussi, qui est beatniks. C'est le mouvement hippie, il a lu Mao, il est là-dedans, et en même temps, il va revendiquer les mêmes primes de match que les Hollandais. Donc c'est vrai que c'est un personnage qui est très haut en couleur, très contrasté.
Oui, sacré personnage, effectivement, de BD. Il aime la clope, il aime la colle, il aime les filles, il a des revendications aussi très précises. Rien à voir avec celui qu'on a surnommé le Kaiser, hein, Franz Beckenbauer, qui porte le brassard du capitaine de cette équipe ouest-allemande. Alors lui, c'est un peu le contraire. Lui, il porte la rigueur sur son visage. Vous avez, j'imagine, pris un peu moins de plaisir à dessiner Beckenbauer que Breitner, je me trompe?
Bah oui, d'autant plus que Beckenbauer, très jeune, il est assez lisse. Et en fait, c'est vrai qu'on le comprend. Nous, on le connaît plus. Ce qui était la grande difficulté, c'est que nous, on le connaît plus dans les deux coupes du monde qui vont suivre.
Bien sûr.
Où là, vraiment, il a marqué les esprits. Là, en 74, il est quand même très jeune, très lisse. Il est vraiment pas facile à dessiner à ce moment-là. Et en plus, il a vraiment cette coupe de cheveux qu'on a limite tous les joueurs à cette époque-là. C'est-à-dire, ça recouvre les oreilles. C'est long, mais pas trop. Enfin voilà, on est dans l'espèce de années 70, de début 70.
Quoi. Oui, et donc c'est vrai qu'ils ne se ressemblent pas physiquement, ils ne se ressemblent pas dans leur jeu, ils ne se ressemblent pas dans leur vision du monde, Breitner et Beckenbauer, Philippe Collin. Et justement, cette différence, cette divergence-là, eh bien, l'espion infiltré, Konrad Werner, va tenter de l'exacerber, il va jouer avec ça.
Bien sûr, il va jouer là-dessus, parce que ce qu'a commencé à raconter Sébastien, c'est que l'Allemagne de l'Ouest n'est pas monolithique. Hein, on pourrait avoir l'impression que c'est une Allemagne, voilà, qui ressemble à celle des années 60, assez conservatrice, bavaroise. Non, c'est plus complexe. Cette équipe, elle représente toute l'Allemagne. Et Breitner est l'incarnation, on vient d'en parler, d'une jeunesse antimilitariste, anti-guerre du Vietnam, etc. Beckenbauer, lui, incarne évidemment un conservatisme un peu plus rigoureux. Et Konrad, effectivement, va jouer là-dessus, sur deux ressorts. C'est-à-dire que ça, c'est, comment dire, ça, c'est pas prouvé dans les archives de la Stasi. Hein. C'est des supputations qu'on peut avoir. Donc nous, on a projeté là-dessus l'aspect de la fiction. Mais effectivement, on sait que Breitner s'est fait livrer du vin rouge sous des bouteilles de jus de cassis. Ça, c'est tout à fait vrai. Ouais. Et on ne sait pas qui le livrait en jus de cassis. Vin rouge, on imagine que ça peut être aussi des agents intégrés, alors que Breitner ne savait pas qui étaient ces gens, peut-être. Mais surtout, Sébastien a commencé à l'évoquer, il y a l'affaire des primes. C'est important parce que en Allemagne, ouest allemande, on ne joue pas pour de l'argent. C'est historique, c'est ancré dans la culture allemande. Quand on joue pour la patrie, on ne joue pas pour de l'argent. Or, les années 70 correspondent au moment où les footballeurs, une partie des footballeurs, se considèrent comme des travailleurs et ne se trouvent pas assez rémunérés. En disant, les fédérations s'engraissent, les sponsors s'engraissent, mais c'est nous qui travaillons sur le terrain.
Donc on
veut notre part du gâteau. Et donc, il y a tout un mouvement ici dans le football, les 70s, qui s'empare du problème de l'argent, et donc notamment Breitner, qui est Mao, se dit, mais il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas de pognon. Donc du coup, il est au courant effectivement que les Hollandais ont négocié une prime de 100 000 florins s'ils sont champions du monde, donc Breitner décide d'aller entamer des négociations avec la fédération ouest-allemande pour toucher 100 000 Deutschmark, la part du gâteau, s'ils sont champions du monde. Et ça crée des vraies tensions dans l'équipe.
Voilà, tensions dont va jouer effectivement le personnage de Konrad Werner, alors que son frère Andreas, lui, se trouve donc dans l'équipe d'en face, hein, donc dans l'équipe de la RBA. Il est là pour les surveiller, hein, les joueurs est-allemands. On ne sait jamais s'il y en a un ou deux qui auraient envie de passer à l'ouest, hein, de rester à Hambourg, de prendre la fuite de la délégation. Et c'est vrai que la tentation est forte quand même, parce que à ce moment-là, on a l'impression que ces Est-Allemands-là ont des yeux absolument émerveillés devant ce qu'ils découvrent dans les rues de la ville, Philippe Collin.
Oui, absolument. Et en même temps, il faut faire attention, parce qu'autant, vous voyez, on a essayé d'être subtil avec la RFA, il faut être subtil avec la RDA. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a essayé de faire avec Sébastien, d'être sur la crête tout le temps de la subtilité et de la nuance. Parce que en effet, ils sont à la fois émerveillés par ce qu'ils voient à l'ouest, mais ils ne sont pas malheureux à l'est non plus. Enfin, c'est une dictature, évidemment, mais les 70s en RDA, c'est pas si mal, à vrai dire. Donc on a essayé de
donc mettre... c'est pas les queues, les files d'attente
pas
avec des tickets pour obtenir rien du tout,
au
final.
Du tout. Dans les 70s, on sort de deux décennies compliquées en RDA, parce que forcément on a dû reconstruire, mais il y a une relance économique, notamment parce qu'il y a des traités internationaux qui sont établis avec la RFA, grâce à Willy Brandt, qui est le grand chancelier ouest-allemand. Donc il y a des subventions très larges qui arrivent en RDA. Et puis il y a des libérations. On a le droit, on fabrique des jeans par exemple en RDA. On a le droit d'écouter de la musique américaine, du rock and roll. Tout ça est autorisé par Honecker, qui est le dirigeant est-allemand de l'époque. Donc et puis on est assez fier de ce qu'on a réussi à faire. Techniquement, la RDA, je veux dire technologiquement, la RDA est une fierté du bloc de l'Est. Donc les est-allemands sont assez fiers de leur pays. Et puis ils sont triomphants sur la scène du sport. Ils remportent moult médailles. Ce match-là est très important, la fierté est-allemande, ils ont battu le football bourgeois, donc ils sont très heureux. Néanmoins, et là on revient à la subtilité, la nuance j'espère, c'est que ces deux gamins, enfin, parce qu'en fait il est proche de Sparwasser, Andreas, qui est le grand buteur est-allemand, ils découvrent un monde qu'ils ne connaissent pas, un monde de liberté, de plaisir, d'hédonisme, et c'est vrai que soudain il y a aussi une tentation, il y a une tentation.
Connu, Philippe Collin.
J'ai des doutes.
Oui. Non, levons-les tout de suite.
Le son est lointain, mais oui. C'est un vieil enregistrement.
Mais c'est un vieil enregistrement, un enregistrement live en plus, in Hambourg, évidemment.
Donc c'est quoi ? C'est les Beatles ?
C'est les Beatles,
c'est les Beatles.
Ouais.
C'est bien ce qu'il
me semblait. Where have you been all my life ? Hambourg, 1962 en live, parce qu'il faut-il le rappeler, hein, oui. Les quatre garçons dans le vent ont bâti une partie de leur légende en Allemagne, à Hambourg.
Mais bien sûr, c'est là que ça a commencé, en vérité. Évidemment, ils étaient populaires à Liverpool, dans leur garage et leur cave, mais les Beatles s'envolent de manière international à Hambourg, c'est là où il perce et ils explosent en 62-63.
Voilà, et il y a une scène de l'album qui se déroule au Kaiser Keller, un club de musique
mythique.
Du quartier Saint-Paul, où les Beatles se sont justement produits. On ne va pas raconter plus précisément la scène, dans quelles circonstances, on va plutôt revenir sur ce fameux match de foot entre la RFA et la RDA de 1974.
Breitner. Crochet de Breitner, va-t-il tirer ? Non ! Il aurait dû essayer de tirer Breitner. On sait qu'il a une très bonne frappe de balle. Il l'a prouvé contre le Chili. Il a préféré avancer encore et essayer de mettre en bonne position de tir Fleureux. Mais la défense amène de l'Est. C'est très bien plié à toute vitesse. Kreich, bousculé par Kuhlmann. Les Allemands de l'Est contrôlent encore le... Non, perdent la balle cette fois. Schwarzenbeck. Beckenbauer avec ses crochets, ses déviations. Sa frappe de l'extérieur du pied, ses amortis. Technique au plus haut niveau. Beaucoup de nonchalance également, ce qui n'est pas du goût de tous les spécialistes et souvent du public. Beckenbauer a donné à Schwarzenbeck. Jasmer, Jan Schmer a donné à Kreich. Kreich surveillé par Kuhlmann. Le voilà Hans-Jürgen Kreich. Il a eu beaucoup de courage. Il a dû dépenser beaucoup d'énergie pendant 6 mois pour revenir au meilleur niveau. Après des mois de rééducation, ayant gardé un plâtre pendant 3 mois.
Voilà, et là, il a suffi de quelques secondes à peine, Philippe Collin, pour que vous reconnaissiez la voix du commentateur.
Michel Drucker.
Voilà, il est toujours là. Incroyable. Il ne commente plus le foot, mais il est incroyable. Toujours très présent dans les médias.
Michel Drucker, 74, ont commenté le match en France entre la RFA et l'RDA.
Alors, comment est-ce que vous avez procédé, Sébastien Goethals, pour dessiner les scènes de match? Vous êtes parti, justement, de la retransmission télévisée commentée par Drucker en France?
Non, moi j'avais pas les. C'est la première fois que j'entends l'enregistrement de Michel Drucker. Là. C'est vrai que c'est assez fou.
Ouais. C'est fou.
C'est assez fou cette plongée dans le passé là, ouais. Effectivement, et cette continuité en même temps, c'est incroyable.
Vous êtes parti des images du match ou pas du tout?
J'ai évidemment regardé, j'ai disséqué le but, surtout le but, et puis je me suis vraiment surtout concentré là-dessus, et puis après j'ai fait appel moi à mes souvenirs de très jeunes joueurs, j'étais poussin et minime dans mon petit village en Provence, et j'avais ce souvenir là d'être un petit peu perdu dans le cours du match. Je voulais qu'on retrouve dans cette bande dessinée le fait d'être de perdre un peu la notion d'espace, un peu d'être un peu perdu.
Oui, parce que vous jouez beaucoup avec les cadrages.
Oui absolument, et je m'étais lancé comme défi de qu'il n'y ait aucun cadrage qui puisse ressembler à une captation vidéo. Voilà, je suis un petit peu taquin avec moi-même. Je m'étais mis un petit challenge comme ça.
Voilà,
je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire de compliqué? Qu'est-ce que je pourrais faire de compliqué et qui me fasse plaisir en même temps? Non, mais parce qu'il n'y a rien de plus insupportable que effectivement, de copier une captation de ouais. match de foot ouais. vidéo. Enfin, ça n'a aucun sens. Et du coup, là, moi, je voulais être à hauteur d'homme. C'est-à-dire que je me suis dit, il y a 22 joueurs, il y a 22 caméras. On reste là-dedans. Et du coup, ça me permettait d'avoir des cadrages inédits. Par exemple, effectivement, quand il y a un corner qui est tiré, on se met à la place de celui qui va recevoir le ballon avec cette espèce d'ivresse de l'espace, de ne pas savoir exactement où on est, etc., d'espérer attraper le ballon. Donc, j'ai souvent décadré, j'ai surdécoupé, j'ai essayé de ressentir, de retrouver l'odeur du gazon, les crampons, la perte de la notion d'espace, et en même temps, tout en gardant effectivement une espèce de lecture très simple, implacable, qui fait qu'on aille droit au but en fait.
Alors c'est vrai que on a vraiment l'impression d'être au cœur du match, d'être sur la pelouse avec les 22 joueurs. Il y a aussi, j'imagine, de votre part, Sébastien Goethals, un travail sur le mouvement, parce qu'évidemment il court, il y a énormément de gestes techniques, comme on dit. Mais justement, cette question du mouvement, comment est-ce qu'on donne en bande dessinée l'illusion du mouvement?
Bon, en fait, quand on est dans le dessin réaliste, on a sur nous une épée de Damoclès en permanence, c'est celle d'être raide, de devenir raide. Mmh. Et en fait, du coup, moi, après, j'ai eu un petit passage, moi, dans ma carrière, dans l'animation, donc j'ai pu, en même temps, aller rechercher un peu cette élasticité qui sert de base à la construction d'un personnage. Plutôt que d'être tout de suite sur des volumes justes, j'ai essayé vraiment de trouver comme ça des lignes de force. Bon, après, c'est un peu technique, là, je raconte un peu la tambouille des dessinateurs.
Ah oui, mais c'est passionnant.
On a comme ça, dans notre casse à outils, plusieurs façons d'appréhender le dessin. Et des fois, faut aller chercher la bonne technique, etc. Cette scène-là dont vous parlez, c'est la scène sur laquelle j'avais le plus d'appréhension. Et c'est celle qui a été la plus facile à dessiner. Il y a eu un moment, je l'ai retardé le plus possible. Comme avec un petit trac, en fait, hein, un vrai trac. Mmh. Et puis à un moment, quand je me suis lancé, ça a coulé tout seul. Ça a été vraiment je l'ai fait quasiment dans un état second.
Mais c'est vrai qu'on a souvent en tête, hein, quand on découvre la bande dessinée, les dessins de l'école de Marcinelle. Alors pour faire simple, l'école Spirou. Et là, on a un peu l'impression que quand il y a la vitesse, il y a ce qu'on appelle les traits de vitesse. C'est-à-dire que derrière la voiture, on marque des traits très, 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 très vifs, très à vif, etc. qui donnent tout de suite justement cette impression de vitesse. On peut jouer aussi sur la fumée, etc. Et vous? Pas du tout. C'est pas du tout la technique que vous avez utilisée.
Non, moi, je suis vraiment très, très... Moi, ma petite marotte, la première chose que je me mets en tête, c'est le cadrage. Et la succession de cadrages crée la vitesse. C'est une mise en contraste des plans rapprochés, des plans loin, des plans lointains. C'est une compréhension de l'espace dans lequel va se jouer la scène. En fait, je dirais pas qu'on peut tout mettre sur les traits de vitesse, on peut pas tout mettre sur le cadrage, on peut pas tout mettre sur une seule technique, mais c'est quand, effectivement, on acquiert des années à faire des pages, on commence à trouver notre propre grammaire, et sans oublier celle du public, évidemment, qui a déjà, lui, qui vient avec sa compétence de lecture, parce qu'il faut avoir une compétence de lecture en bande dessinée, même si c'est un moyen tout à fait universel et très accessible. Mais effectivement, quand même, c'est pas évident de passer d'une image, de décaler son regard, de passer sur l'autre, et que d'un coup l'animation se fasse, et que l'ellipse se fasse, et elle soit intégrée par le lecteur, et que ça passe sans difficulté.
Schwarzwasser, une occasion! Oui! But marqué par l'Allemagne de l'Est, par Schwarzwasser, sur un magnifique contre-attaque, c'est du délire! Dans le camp des supporters est-allemands, qui sont seulement 1500, je vous l'ai dit. Nous allons revoir ce but au ralenti.
Voilà, donc but est-allemand, hein, donc Sparwasser qui parvient à tromper le gardien Zepp Maier, et si l'on en croit l'album, Philippe Collin, le commentateur est-allemand que Sébastien Goethals a dessiné, lui, il est encore un peu plus enthousiaste que Michel Drucker.
Alors hein. Oui, ça, moi j'ai entendu le commentaire est-allemand, c'est impressionnant, parce que évidemment on imagine...
On a renversé la montagne. Là.
On a renversé la montagne, c'est David contre Goliath, même s'ils sont pas du tout mauvais, ces joueurs est-allemands, mais en face, il y a Beckenbauer, Breitner, Sepp Maier, comme vous l'avez dit, c'est les meilleurs joueurs du monde à leur poste. Ils vont devenir champions du monde 15 jours plus tard.
Voilà, donc ils ont gagné le match, les Est-Allemands, mais ça n'empêchera pas la RFA de rencontrer la compétition à 2-1 en finale face aux Pays-Bas, hein, ceux qui avaient obtenu les primes, là, justement, oui, qu'on évoquait tout à l'heure. L'Allemagne, encore une fois, donc, au centre de ces deux albums, Philippe Collin, qu'est-ce qui vous intéresse tant dans l'Allemagne? Vous avez un tropisme allemand?
J'ai un tropisme européen. Et l'Allemagne est au cœur de l'Europe. Et vous savez, ces deux albums, ils parlent d'aujourd'hui. On pourrait penser que ça parle du passé, évidemment, c'est le cas. Mais voyez, ces deux gamins, par exemple, ils sont confrontés à des radicalités. Ils sont dans un monde où les radicalités sont fortes. Hein, le bloc de l'Est contre le bloc de l'Ouest. L'ultralibéralisme contre le communisme. Le monde dit libre contre le monde de l'égalité. Et ils sont pris au piège des radicalités. Et d'ailleurs, ça va conduire à une trahison. Hein. Un des frères va trahir l'autre. Je ne révèle pas qui, mais cette radicalité va provoquer ça. Et puis à la chute du mur de Berlin, qui est donc la fin de l'histoire, soi-disant. Hein. On s'en souvient, c'était la fin de l'histoire. Tout ça devait disparaître. Nous devions tous vivre dans un horizon dégagé. L'Europe était à notre portée de main. Or, nous nous sommes trompés. Nous avons tout foiré, comme on dirait. We blew it, comme à la fin de Easy Rider. Et aujourd'hui, que se passe-t-il, Jean-François? Nous sommes tous face à des radicalités. Nous sommes prise au piège des radicalités de part et d'autre. On pourrait les évoquer, il y en a plusieurs. Il y a l'ultralibéralisme, il y a évidemment l'extrême droite, et puis des réactions à ces radicalités qui sont d'autres radicalités. Et donc nous sommes prises au piège, et sommes-nous prêts à ça? Et je pense que Sébastien et moi, nous défendons une vision de l'Europe qui peut être à la fois complexe, nuancée, dans une forme de modération. Je pense que nous sommes nombreux aujourd'hui en Europe à être dans une forme de nuance, mais personne n'est là pour nous représenter.
Alors il y a en épigraphe une phrase, quelques mots, vraiment très très courte, cette phrase, l'Europe, c'est la réconciliation. C'est un constat ou c'est un vœu, Philippe?
Alors, c'est un constat parce que nous avons réussi à nous réconcilier quand même. Hein. Il y a 75 ans, l'Europe était à feu et à sang. Nous avons entrepris la réconciliation franco-allemande et nous y sommes arrivés. Donc, c'est une réalité. L'Europe, c'est la réconciliation. Donc c'est un constat, c'est aussi un vœu, parce que vous voyez, le fossé se recreuse entre l'Est et l'Ouest aujourd'hui, de manière violente. Hein, l'Europe de l'Est est gangrénée par l'extrême droite, et nous sommes face à eux, craintifs et en difficulté. Et donc il faudrait essayer de, à nouveau, nous réconcilier avec notre passé, déjà, et avec ces pays qui sont sans doute en souffrance et qui ont été humiliés. Parce que nous avons pensé, nous, monde dit libre à l'époque, que nous avions gagné contre l'Est. Et que c'était comme ça. Hein. Et puis, on devait absorber l'Est et puis il devait se taire. En réalité, c'est plus complexe. Et aujourd'hui, on voit bien que notre modèle a foiré aussi et que nous sommes en nouveau en prise aux radicalités. Et donc, est-ce que nous voulons une radicalité et devoir trahir un frère ou une sœur? C'est la question que nous posons avec Sébastien. Parce que c'est peut-être l'avenir qui nous est réservé.
Sébastien Goethals, c'est ce qui va sortir en Allemagne, cet album?
Il est sorti avant-hier en Allemagne.
Absolument. Ah,
très bien.
Mm-hmm.
Et, ouais. Et vous allez le présenter là-bas, peut-être rencontrer Beckenbauer ou Breitner ou peut-être même Spavassov.
On l'adorait, bien sûr, oui, absolument. Mais effectivement, on est, comme tout le monde, soumis à ce qui se passe en ce moment au niveau des conditions sanitaires. Mais effectivement, on l'adorait avec Philippe. Oui.
Alors, maintenant que ce diptyque est derrière vous, Sébastien Goethals, est-ce que vous allez continuer à travailler avec Philippe Collin?
Non, par contre, c'est pas un triptyque. Alors,
non, ça c'est clair. Mais vous allez peut-être faire autre chose, parce que j'ai lu qu'il y aurait une idée de série dans l'air, c'est vrai ça?
Alors, on va reprendre les choses, deux secondes. Ça allait très vite. Non, effectivement, on va pas revenir, je pense, tout de suite sur l'Europe. Je pense qu'avec Philippe, effectivement, on a quand même bien raconté cette histoire de l'Europe, cette construction difficile, effectivement, cette réconciliation, comme vous en parlez. Parlé il y a deux minutes, mais on a envie effectivement d'aller sur un nouveau challenge avec Philippe, et peut-être effectivement, pourquoi pas, on est en train de réfléchir à ça, en train de se documenter, pour être tout à fait honnête, sur un univers d'une série.
Eh bien, rendez-vous est pris, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup Philippe Collin.
Merci à vous, c'était parfait. Merci
à vous Sébastien Goethals, la patrie des frères Werner chez Futuropolis. Merci également à nos amis de France Bleu Occitanie pour avoir réalisé ce duplex avec vous de Toulouse. Et bonjour Alain Pilot.
Bonjour Jean-François, bonjour Philippe Collin, bonjour Sébastien Goethals.
Bonjour.
Bonjour.
To be a girl dans VMDN sur RFI, un an et quelques après Stupor Machine, le sixième album du groupe Eiffel, eh bien Romain Humeau revient sous son nom à lui cette fois-ci avec un cinquième disque Alain, un disque intitulé Echo.
Et cet auteur, compositeur, chanteur, multi-instrumentiste et producteur est selon moi l'un de nos meilleurs mélodistes en France. Bernard Lavilliers ne s'y est pas trompé, mais Vanessa Paradis oui, puisqu'elle lui a refusé le titre générique de ce disque Echo. Romain ne lui en veut pas pour autant. Peut-être qu'elle n'aurait pas su maîtriser le sujet de l'album, de la chanson qui est l'épigénétique. Décryptage, Romain.
C'est que de parler avec toi, Alain, ce soir, sachant qu'on a souvent fait des interviews ensemble, et ben ce que je sais depuis la dernière fois qu'on s'est vu, c'est que, par exemple, je parle et j'envoie des mouvements vibratoires que tu reçois avec tes oreilles, mais tu ne le reçois pas qu'avec tes oreilles, mais avec ton corps, et réciproquement. Et au moment où je les reçois, la nation de cellules qui fait que je suis Romain pendant un laps de temps donné, se ionise différemment et se caméléonise par rapport à toi, ce que tu m'envoies. Et pareil avec la plante qui est à côté de moi, pareil avec l'immeuble que je vois derrière, pareil avec le joli visage de Nathalie Ridard derrière que je vois, ou la colonne, voilà, et tout ça change mon corps, et moi je change ces choses-là aussi, et qu'on n'est que le miroir du monde. Et ça, c'est très positif quand on n'est pas croyant. C'est une sorte de croyance, la biologie des croyances, voilà. Je trouve ça assez passionnant.
Qui a eu l'idée du gimmick de la chanson « Sauve-toi, sauve-moi », non pas en RFA ou en RDA, mais au cœur de ce cher Pays Basque, à Ainhoa précisément.
C'est beau, hein. On était avec des amis, avec Estelle, et puis on s'est arrêté parce qu'on trouvait que le petit chemin, le petit sentier était beau. Il y avait un chêne, et puis je crois qu'il y avait des fromages de chèvre. Estelle adore les fromages de chèvre. Donc ils sont partis. Et je veux pas romancer, mais je crois que moi, j'ai sous le chêne, j'ai vu un cèpe. Et j'ai dit « Je suis désolé ». Achetez vos chèvres, moi je gère le cèpe, je regarde s'il n'y en a pas d'autres. Et en fait, il n'y avait que ce cèpe, il n'y avait rien d'autre, donc au bout d'un moment, et puis ils ont foutu un temps à venir, c'était une heure. Donc j'ai pris la caisse derrière la voiture, il y avait ma guitare, j'ai pris la guitare, et sur le capot de la voiture, je me suis amusé, puis j'ai trouvé ce riff, mais c'était il y a très longtemps, c'était en 2012. Et voilà, puis c'est un peu resté comme un futur inédit de Mousquetaire 1, Mousquetaire 2, sans texte. Et donc les textes, je les ai écrits en 2019, à New York. Tout le Bataclan dans le détachement.
Un opus qui est plus une compilation des inédits de ses longs formats précédents, toujours solo, Mousquetaire 1 et 2, Romain Humeau, Sauve-toi, sauve-moi, où l'on vient d'entendre, il chante Patatras, Trip, tout le Bataclan dans l'heure, au moment où l'on juge les complices des terroristes en France. Était-ce une allusion ?
Il n'y a pas de jugement dans ce texte-là, c'est juste, parfois certaines personnes sont angoissées, parfois certaines personnes sont plusieurs personnes à la fois, je pense en faire partie, et des fois je peux partir en angoisse énorme. Et j'ai déjà écrit un texte qui s'appelle Knife and Cheesecake, comme ça, un texte qui s'appelle La mort sifflera trois fois, qui sont horribles. Là c'est plutôt, j'ai peur, j'ai très peur dans Sauve-toi, sauve-moi, de toute façon le texte le dit, et je ne sais pas. La personne qui chante ne sait plus trop où elle en est. Taj Mahal, les pissotières, la putain, le Bataclan, je sais plus ce que je dis. Oui, les dieux de l'Olympe, à un moment donné, toujours pareil, quand t'es pas croyant, tu cherches quand même des trucs. Moi, je cherche des trucs. Je suis pas athée non plus. Et du coup, je ne juge pas. Je voulais, ça faisait très longtemps, et j'ai mis tout ce temps-là pour dire le mot. J'ai dit tout le Bataclan, parce que c'est une expression, hein, tout le Bataclan. C'est tout un Bataclan. On dit ça. Et maintenant, ce que ça dit, c'est autre chose pour moi, je pense pour tout le monde, l'inconscient collectif. Et c'est un truc qui me choque, moi. Je suis très malheureux de ce qui s'est passé. Je ne rigole pas avec. Hein. Mais par contre, il faut savoir dire. C'est pas parce qu'on ne rigole pas avec qu'on ne peut pas nommer. Enfin voilà, comme je disais, j'étais fan de Des Proches. On peut nommer les choses, quoi.
Cherry Jean sur Echo de Romain Humeau, sorti chez Seed Bombs Music, l'autre distribution. Merci beaucoup Alain. Dans un instant, le journal sur RFI. On se retrouve demain pour parler littérature, cette fois avec un ouvrage vraiment singulier, le dernier roman de Jean-Marie Blas de Robles. Le titre, Ce qu'ici-bas nous sommes. Il est paru aux éditions Zulma et vous m'en direz des nouvelles.